Bien, et bien, merci à tous et merci en particulier aux collègues qui nous rejoignent pour cette table ronde. Ils se présenteront bientôt eux-mêmes. Quelques mots pour expliquer l'organisation. Je dirais que cette table ronde, elle a deux buts. Un premier but bah, qui était tout à fait prévu d'avance. Nous avons eu une réflexion, nous avons mené une réflexion depuis hier matin autour du thème établissement scolaire en changement, élément pour une évaluation. Et il y a une question générale qu'il était prévu de poser, qui est d'ailleurs apparue à plusieurs reprises dans les exposés. Pour faire très vite et pour parler de façon un petit peu schématique, lorsqu'on s'interroge sur des grandes questions du genre le système éducatif est-il encore réformable ou comment évolue le système éducatif, on voit tout de suite l'opposition entre deux modèles. Un modèle qui est plutôt un changement par le haut, un changement à partir de réformes, justement, de lois, de règlements. Et on voit que souvent, enfin, quelquefois, on va le voir, quelquefois ces lois, ces règlements rencontrent des enthousiasmes du terrain, des engagements du terrain, mais ils rencontrent aussi beaucoup de difficultés, d'opposition dans la mise en œuvre. L'article 34 de la loi de 2005, qui ouvre la possibilité d'expérimentation, tente un autre type de changement qui serait un changement par le bas. C'est un type d'évolution qui existe tout à fait, qui en particulier est assez implanté dans les pays anglo-saxons, les pays de tradition de self-government. Alors, est-ce à dire que ça ne rencontre pas de difficultés? Si beaucoup. Et c'est un petit peu sur cette réflexion que j'aimerais lancer la table ronde. On sait très bien qu'il ne faut pas penser ni en termes de généralisation, c'est-à-dire une expérimentation a réussi et on trouve le bon ministre qui signe la bonne circulaire et ensuite, eh bien, ça se généralise. Mais il y a eu des tentatives dans ce domaine. Elles n'ont pas été très convaincantes. On sait aussi que le modèle qui était celui des pédagogues des années 60-70, ce qu'on appelle la tache d'huile, c'est-à-dire une espèce de dissémination par contagion et comme un phénomène naturel, ne marche pas non plus. Il n'y a rien de moins naturel que la dissémination de l'innovation. C'est l'objet d'un travail. Alors, c'est un petit peu sur ce travail, la nature de ce travail, une fois que, et qui a fortement à voir, je crois, avec l'évaluation de l'expérimentation, c'est-à-dire comment est-ce que, au travers en particulier de l'évaluation, on rend un travail transportable. Ce qui ne veut pas dire généralisable, c'est-à-dire que ce n'est pas chaque cas est particulier et on ne retrouvera jamais les mêmes conditions, jamais, etc. Mais au travers en particulier de l'évaluation, je dirais, on dégage un petit peu le concept. Et ce concept, il est transportable, il ne se réincarne pas dans d'autres situations, mais en quelque sorte, il donne à penser. Or, c'est bien ce qui, dans la loi de 2005, c'est bien l'esprit des expérimentations, article 34, et c'est bien l'esprit où nous sommes maintenant, puisque au bout de 5 ans, et les 5 ans arrivent, il va falloir rendre des comptes et rendre un rapport au Conseil. Il ne s'agit pas, enfin, il s'agit évidemment de rendre compte du travail qui a été fait, mais il s'agit aussi de donner des idées à des ministres, à des directeurs. Il ne s'agit pas de faire un plan de réforme, mais de
donner des idées, de faire circuler du consomme, comme disent parfois les technocrates européens, injecter de la matière grise, ce qui est une expression d'une élégance.
Donc c'est un petit peu là-dessus. Comment, à partir de l'évaluation, comment envisager le changement d'échelle, le transport? Alors, ce que je propose, c'est nous fassions un premier tour de table assez rapide, en 5-6 minutes. Nous avions un petit peu discuté. Il nous semblait peut-être bien que M. Bonnour, qui a l'habitude d'une circulation, je dirais, entre l'injonction nationale et l'initiative du terrain, commence. Peut-être justement, comme on va insister sur les spécificités locales, que donner la parole à un chef d'établissement sur le rapport entre l'innovation et l'établissement serait utile. Ensuite, alors je ne sais pas, les deux autorités académiques, Bernard Leroux, Jean Fleury, enfin chacun dans son nom, et nous pourrions peut-être terminer justement par la DGESCO. Après ce premier tour de table, nous verrons bien où nous en serons. Ça suscitera peut-être des questions. Et surtout, François Muller a fait une rapide synthèse des questions qui sont apparues dans les ateliers. Et il vient d'en projeter le graphe. J'ai moi-même un certain nombre de questions qui ont été déposées dans la boîte à questions. Ça pourra faire peut-être une relance pour une deuxième partie de l'atelier. Mais tout d'abord, Gérard Bonnour, peut-être.
Merci. Bien. Merci Jean-Louis. Alors, puisque ça fait deux jours que je suis là, j'ai essayé d'intégrer peut-être dans la présentation un certain nombre de points. Sur l'intervention très courte, 7 minutes maximum, oui. En trois temps, définir des objectifs pour les évaluer, qui évalue et comment on les évalue, et franchir les échelles dans l'optique, enfin, d'évaluer pour franchir les échelles. Vaste programme en 7 minutes. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Définir les objectifs pour les évaluer. Il me semble qu'il y a deux cas de figure à distinguer. Le cas départ de l'école, pour ne pas dire du terrain, puisque je suis définitivement traumatisé depuis ce matin. Je ne peux plus employer le mot terrain. Donc, ce qui part de l'école et ce qui part d'une commande institutionnelle. Alors, quand le départ de l'école, le départ du terrain, c'est un peu ce que Jacob appelait de la science de nuit pour le chercheur. On bricole dans un coin, on a son matériel, on le fait proprement, parce qu'on veut pouvoir le reproduire et changer les choses, mais ça démarre quand même dans un certain flou avec une idée qui vient, et cette idée est le fruit d'un besoin, la rencontre d'un besoin, d'une opportunité, d'occasion, on a vu soit matériel, il y a du personnel pour le faire, il y a un contexte local qui permet de le faire. Bon, et là, il me semble qu'on est dans l'innovation, c'est-à-dire au moins pour l'équipe qui le fait, c'est nouveau, mais peut-être que pour l'observateur, une des premières questions à se poser, c'est est-ce vraiment nouveau ? Parce que ce qui est nouveau pour une équipe peut très bien être de la routine pour une autre équipe. Je pense aux différences entre des fonctionnements de lycées d'enseignement général et des lycées d'enseignement professionnel ou d'enseignement agricole sur des domaines, par exemple, comme l'éducation et développement durable. Bon. Donc, est-ce que c'est vraiment nouveau pour tout le monde ou est-ce que c'est vraiment uniquement nouveau localement? Progressivement, on passe à ce que Jacob appelle de la science de jour, c'est-à-dire la publication qui, en trois pages, va résumer 6 mois ou 2 ans de travail. C'est-à-dire, c'est une mise au propre, et je crois que ça correspond un petit peu à ce que vous appeliez ce matin le passage au cahier des charges. C'est-à-dire qu'on passe de l'intention au cahier des charges. Et là, on formalise pour autre chose, pour communiquer. Et dans ce processus, on définit clairement ses objectifs et on donne matière à évaluation. Des objectifs qui sont des fois les objectifs initiaux, mais qui sont aussi d'autres objectifs, parce qu'on a découvert en faisant qu'il y avait d'autres intérêts à ce que l'on a produit pour l'équipe enseignante et pas seulement forcément pour les élèves, par exemple. Donc, à partir de là, on crée la matière, on crée la base, en quelque sorte, d'une première, des premiers outils de l'évaluation. Et puis, il y a la démarche descendante. Alors, certains dispositifs, on pourrait dire, n'ont presque d'expérimentaux que le nom, puisque le dispositif est pratiquement décidé au niveau national. Je pense à tout ce qui s'est fait, par exemple, pour le B2I, ou les TPA, ou bien même le cahier de compétences en collège. Est-ce que c'est encore expérimental ? On emploie le mot, mais en fait, on a quand même un objet que l'on fournit, qui est un objet déjà travaillé et sur lequel les remontées peuvent encore agir, mais disons presque sur des éléments de détail ou de mise au point, des éléments de réglage. Là, on a une expérimentation. Qui, alors, est-ce innovant ou pas? Est-ce que ça marche? Bon, il y a un autre contexte également qui est celui de l'innovation. Il me semble, par exemple, quand on introduit dans les classes préparatoires les TIPE, les travaux d'initiative personnelle encadrée, c'était complètement innovant, ou même les TPE en première. Eh bien, il n'y a même pas eu d'expérimentation. C'était à la fois innovant, non expérimental et directement opérationnel. Alors, je crois qu'à un certain moment, il faut aussi s'interroger sur les rapports obligatoires entre l'innovation, l'expérimentation et la réussite de quelque chose. Mais il me semble que dans ce cas-là, les innovations ont réussi parce que le terrain était prêt à l'accepter, parce qu'il y avait déjà dans l'état d'esprit puis une poussée en plus, ou une aspiration, ça peut être celle du baccalauréat. Bon, ben, il y a eu poussée et maturité du terrain qui ont permis de l'accepter. On ne se pose même pas le problème de l'évaluation, puisque les objectifs sont clairement affichés dès le départ, et que donc on sait directement ce qu'on va évaluer, puisque c'est un projet construit. Qui évalue? Comment évaluer? Pour passer au deuxième point très brièvement. Et dans quel lien avec l'évolution du système? Je rebondirai sur une des questions qui a été posée ce matin, sur peut-on produire à partir de la recherche, une évaluation qui soit partageable par tous? Eh bien, quand on regarde qui évalue, il me semble qu'il y a trois types de regards. Il y a le regard de l'inspection, avec un certain savoir-faire, qui est celui d'une observation de type qualitatif, et qui repose sur des observations multiples en des lieux diversifiés, à partir desquels on tire un certain nombre d'informations, voire on crée aussi du critère pour l'évaluation, qui est une première étape nécessaire et, disons, extrêmement ouverte. Première étape, peut-être, pas forcément dans la chronologie, mais qui existe. Bon. La démarche du chercheur est quand même assez différente. Le chercheur, lui, va adopter une démarche beaucoup plus pointilleuse, une démarche d'entomologiste, va observer un nombre de cas plus limité, mais par contre, sur chacun de ces cas, va pousser sa démarche avec une énorme précision, analysant des enregistrements, les croisant avec des entretiens, et donc définissant des facteurs, des paramètres, etc., et des objets d'étude. C'est une autre démarche, c'est une autre façon de travailler. Et puis, il y a la démarche de type statistique, je dirais de type DEP, qui là va introduire des éléments quantitatifs, mais sur des critères qui auraient été aussi définis en amont. Il me semble qu'en ceci, la démarche qui est actuellement en marche, comme nous a décrite Christiane Verrez sur l'EIST, est absolument exemplaire. Eh bien, la question, finalement, que je me suis posée en écoutant cette question d'atelier ce matin, c'est: est-ce qu'il faut absolument chercher à faire une seule évaluation qui soit acceptable par tous, ou est-ce que la richesse, ça n'est pas justement les trois évaluations à partir desquelles on fait une synthèse, et à partir desquelles on peut justement évaluer globalement et voir si ça vaut le coup, entre guillemets, d'essayer d'étendre ou de ne pas étendre. Avec deux remarques quand même qui me semblent être sorties aujourd'hui, c'est qu'il faut évaluer au moins deux regards, ce qui est produit sur les élèves, je dis ça de façon très très générale, l'effet sur les élèves, et en général on s'arrête si on s'aperçoit que ce que l'on a fait avec les élèves ne marche pas. C'est un peu contradictoire avec une démarche scientifique ou une expérience qui ne fonctionne pas. Au contraire, incite le chercheur à modifier, quoique là, ça peut aussi jouer dans le cadre d'une réévaluation. Mais la deuxième étape, le deuxième élément à évaluer, c'est quand même bien le dispositif lui-même, le dispositif et ses effets indirects sur les équipes enseignantes, la façon dont ça marche, parce que c'est bien ce dispositif aussi que l'on va montrer dans le souci ou dans l'idée qu'il peut peut-être servir à quelqu'un. Donc voilà très brièvement quelques idées sur qui évalue comment. Donc, troisième point, franchir les échelles et évaluer dans l'optique d'une extension. Alors, il me semble que d'abord, il faut essayer de dépasser un paradoxe. Quand on prend une expérimentation de type article 34, il est clair que l'expérimentation... il me semble que dans l'expérimentation article 34, il y a comme volonté de faire développer des outils singuliers et adaptés dans un établissement permettant d'atteindre des objectifs généraux. Et donc là, ici, on a un véritable paradoxe, puisque l'objectif est général, et si on demande à chacun de développer des objectifs particuliers, c'est justement parce qu'il n'y a pas de méthode générale pour les atteindre, donc on peut se poser, a priori, la question de l'extension. C'est-à-dire que si l'extension avait été possible d'emblée, on aurait créé le dispositif le plus adéquat, en même temps qu'on définit les objectifs. Donc il y a, à mon avis, un premier paradoxe à développer. Pourquoi vouloir étendre quelque chose qui, au contraire, a comme visée première de traiter de la singularité et de l'adaptation? Alors, il me semble qu'une piste serait de dire que les singularités, dans le détail, ne sont pas exportables. Mais c'est exactement ce que vous disiez, c'est des bonnes idées. C'est les bonnes idées qui sont à prendre, c'est-à-dire c'est des intentions, c'est des états d'esprit, c'est des regards. C'est par exemple, et si on introduisait la philosophie en première, elle? Bon, ce sont des choses comme ça. Donc ces idées sont transposables avec peut-être des éléments de dispositif aussi pour donner des idées. Comment on le fait? Bon, mais il me semble qu'un des moyens de détourner le paradoxe entre la singularité et l'extension, c'est peut-être d'avoir recours à une sorte de banque d'idées, un creuset des kits dans lesquels chacun pourrait les puiser. Ce qui, là, déplace le problème de l'évaluation. Ce que l'on doit aussi évaluer, c'est ce que l'on peut rendre public et sous quelle forme le rendre public pour que cela puisse servir, effectivement, être utilisé par d'autres, qu'on puisse se dire, finalement, tout ceci pourrait me convenir, du moins dans l'esprit, puis je vais voir comment je peux, à mon tour, le resingulariser. Alors, je crois que vous l'avez dit, la généralisation est un mythe. Tout le monde n'est pas capable de faire ce qu'a produit une autre équipe. Est-ce que tous les professeurs sont capables de rentrer dans une démarche de UST? Madame Véret a posé la question hier en apportant un élément de réponse en disant non, certainement pas. Ce que j'ai vu en éducation développement durable, que je suis depuis 6 ans, c'est aussi l'affichage systématique des opérations absolument merveilleuses à 3 ou 4 disciplines avec des projets d'une complexité inouïe qui vous laisse complètement sur le derrière en disant oh, comme c'est beau, et qui a l'effet sur une équipe, je dirais, normale, d'être totalement décourageant en disant je ne pourrai jamais y arriver. Et je crois que ça peut être un critère d'évaluation de la publicité, c'est-à-dire d'essayer de trouver des choses simples, faciles à transposer, hein, des dispositifs accessibles, et donc ne pas seulement rendre public les choses absolument exceptionnelles. Donc valoriser les idées simples, celles qui peuvent apparaître simples à tout le monde. Donc, en bilan, le top-down, une innovation ou une expérimentation, ou appelée comme telle, mais finalement c'est piloté, c'est accompagné, on ne se pose pas vraiment le problème de l'extension, puisque par définition même, c'est étendu. Et ce qu'on appelle des fois le bottom-up, il me semble que l'important c'est la mutualisation, mais avant la mutualisation, c'est le rendre public. Et une des grandes difficultés qu'on rencontre, c'est que justement, quand quelque chose qu'a fait une équipe qui marche est modeste, les équipes par modestie, par crainte éventuellement du regard, ne le rendent pas public. Ça veut donc dire que le travail que l'on a à faire, c'est peut-être un travail d'aider à rendre public ces expérimentations, ces travaux, je ne sais pas comment le dire, ces dispositifs modestes. Je crois que ce n'est pas la peine de leur mettre un nom. Et que là, il faut interroger les cadres intermédiaires, les chefs d'établissement, les corps d'inspection, qui ont un rôle. Alors je vais reprendre, ce n'est pas la truffe du chien dont je vais parler maintenant, mais c'est simplement ces cadres intermédiaires qu'ils sentent l'odeur de la truffe. Hein, pas forcément de la grosse truffe, mais de celle qui a du goût pour tout le monde.
Merci beaucoup.
J'essaie de un petit peu déborder.
Merci beaucoup. Eh bien, on a parlé donc des chefs d'établissement et des cadres intermédiaires. C'est à eux qu'on va passer la parole d'abord à Julie Schenker.
Merci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas dans la salle, je dirige le lycée Jean Perrin et le lycée professionnel Louis-Jacques Goussier, qui sont en cité scolaire à Rezé, de l'autre côté de la Loire, après avoir dirigé bien d'autres établissements, et en particulier une carrière au ministère de l'Agriculture, à la direction d'établissements agricoles, pour qui l'innovation était quasiment du pain quotidien, mais pas seulement à cause des professeurs, aussi à cause des exploitations agricoles dans lesquelles nous produisions des expérimentations, et j'y ferai allusion tout à l'heure au moment de l'évaluation. Alors moi, je ne vais pas parler de truffes, bien que mon passé agricole pourrait éventuellement faire parler, j'aurais plutôt parlé de perles, parce que parfois l'innovation sont des perles. Ce que je voulais dire en entrée de jeu, c'est que d'abord l'innovation ne se décrète pas. Ce n'est pas un beau jour, on arrive et on dit tiens, on va faire ça, on a cette idée, on va être innovant. Ça m'est arrivé de vouloir le faire, j'étais très jeune proviseur, aux alentours des années 80, en 81 d'ailleurs, c'était, et j'avais voulu à ce moment-là se poser déjà la question de l'accompagnement des élèves. J'avais voulu à ce moment-là rogner sur chaque heure de cours 5 minutes Et puis, on globalisait les 5 minutes, ça rentrait dans les 18 heures de l'enseignant, et il faisait autre chose pendant, en gros, une heure ou deux heures. Bon, c'était hors cadre, c'était, etc. Pour vous dire aussi qu'innovation, souvent, on s'en saisit de quelque chose, pas forcément d'une idée de proviseur. Souvent, d'ailleurs, les idées de proviseur n'aboutissent pas. Hein, elles manquent d'engrais, elles manquent d'eau, et elles flétrissent comme les petites plantules au stade de feuilles. Hein. Il faut donc plutôt... Et c'est pour ça que je parle d'une perle, là, qui passe au fil de l'eau. Tac, on la trouve. Hein. On la trouve. On s'en saisit et on a la capacité de la mettre en valeur. Alors, la mettre en valeur, c'est souvent de trouver... de s'en saisir en termes de management. Parce que moi, je pense que c'est là qu'on va trouver notre position, c'est-à-dire en termes de management. Et les objectifs qui sont annoncés ne sont pas forcément les objectifs qu'on va poursuivre. Si vous avez réfléchi sur la philosophie ce matin, le premier objectif qui était poursuivi, moi je suis très dubitatif. Je ne pense pas du tout qu'il s'agissait de savoir si les élèves allaient mieux réussir, etc. Je pense qu'il s'agissait de sauvegarder des postes et de ne pas faire en sorte qu'il y ait des enseignants en sous-service. Bon, on a ensuite transformé cette idée qui pouvait être de manière extrêmement opportuniste, une idée effectivement de trouver des heures, puisqu'il s'agissait d'en mettre 5 ou 6, je ne sais plus, enfin, M. Faes a dû vous dire ça ce matin mieux que moi. Et là, on a effectivement transformé l'affaire. Et c'est à partir de la transformation d'un objectif qui n'était pas forcément avouable qu'on a cherché des objectifs bien plus avouables et qu'on a mis en place une stratégie d'évaluation. Mais là encore, évaluer... Alors, je fais le lien avec ce que disait Gérard à l'instant. Évaluer là... moi, je sais évaluer quand je fais une expérimentation avec des végétaux. J'en sors 15 sur les 150. Je regarde. Ah, la racine est développée là. Ceux-là, ils ont eu plus d'eau. Ceux-là, ils ont eu moins d'eau, etc. Là, sur des élèves de première L et de première ES, qu'est-ce que je vais évaluer? Qu'est-ce qui va être le plus qu'apporte cette évaluation? Je ne sais pas. Moi, je sais dire que... Je ne sais pas dire s'ils auront de meilleures notes au baccalauréat en philosophie, ce qu'on pourrait être en droit d'attendre. Je ne sais pas dire si le plus qu'on a injecté en termes d'heures, puisque ça a un coût... Oui, une petite remarque. L'innovation, c'est rarement du moins. C'est la plupart du temps du plus. Et il faut donc toujours s'ingénier en tant que chef d'établissement à essayer de trouver les moyens qui vont aller. Mais j'y reviendrai, ça. Alors, cette évaluation, on va évaluer quoi? On va évaluer, évaluer les résultats au bac des élèves de philo en première L. Difficile. On n'a jamais une classe de première L qui ressemble à l'autre. Hein. En plus, il faudrait pour ça en avoir 5 ou 6 ou 7, pouvoir dire, tiens, dans deux, je mets les heures, dans les autres, je ne mets pas les heures. Mais il faudrait être sûr de la composition des classes, qu'on ne vienne pas détourner l'évaluation par le fait, le biais d'options particulières. J'imagine qu'une classe qui aurait une option maths, par exemple, pourrait avoir affaire à des élèves peut-être un peu plus performants que ceux qui prennent l'option anglais renforcée. Enfin, je ne dis rien contre l'anglais, mais bon, vous voyez, des choses qui viendraient biaiser notre évaluation. Et ça, on en a plein. Parce que je n'ai même pas parlé de quel est le professeur qui va enseigner. Or, la personnalité du professeur, on le sait très bien, va avoir... Donc, une grande difficulté à évaluer lorsqu'on est à un stade expérimental ou en tout cas d'innovation au sens où entend l'article 34. Alors, jusqu'à maintenant, on avait effectivement une grande difficulté de mettre en place l'innovation. Parce qu'on n'avait pas de cadre institutionnel. Et donc, ça n'était... On pouvait se trouver en bise-bise avec un inspecteur pédagogique qui viendrait dire, tiens... vous faites ça, ah bon, pourquoi, etc. Maintenant, on a quand même l'article 34. Alors, bien sûr, il est extrait d'une loi qui s'appelle Fillon, qui n'a pas forcément bonne presse, mais enfin, quand même, l'article 34 nous aide. Hein. Je reviens sur l'idée du management. Le manager, lui, qu'est-ce qu'il va chercher? Pas forcément l'objectif qui va être donné par tel ou tel professeur, mais peut-être qu'une cohésion d'équipe, peut-être une valorisation de la filière, peut-être, pour les L, c'était très clair chez nous, peut-être... une autre manière d'enseigner la philosophie qui va apparaître en disant, tiens, finalement, on a peut-être manié des concepts de manière différente qu'on l'aurait fait si c'était dans le cadre d'un programme général. Je pense à d'autres expériences que j'ai vécues, je dis bien expérience, hein, et non pas expérimentation que j'ai vécues, et pour qui, et qui n'ont pas abouti. Et ce sont, quand on parle management avec les nouveaux chefs d'établissement avec qui j'ai le plaisir de travailler dans leur cadre de leur formation initiale de temps en temps, ce sont des cas d'école sur le management. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que derrière ça, il faut qu'on ait une validation à l'intérieur de l'établissement. La validation à l'intérieur de l'établissement, elle est faite d'un conseil d'administration qui n'est pas toujours au fait de telle ou telle problématique, dont les membres sont souvent les porte-parole d'organisations qui n'ont strictement rien à voir avec l'expérimentation locale. Pour être clair, je parle de représentants syndicaux dont le mot d'ordre est, par exemple, faire en sorte que tous les lycées aient tous les mêmes moyens et avancent au même rythme tout le temps. Et que, justement, on ne fasse surtout pas de privilèges ici ou là. Hein? Ça, c'est quand même des choses qu'on a déjà vues, que j'ai vécues personnellement, et qui, malgré une attitude d'équipe pédagogique, se heurte à un refus des délégués du personnel au CA. Parfois on a des élèves, parfois on a des parents, parfois on a des autres représentants qui sauvent la mise, mais c'est quand même embêtant de mettre en place une expérimentation si on n'a pas avec soi le corps professoral. Et là aussi, il faut que cette petite perle qu'on a saisie, elle soit partagée. Voilà ce que je voulais dire. J'ai sans doute... j'ai parlé de l'évaluation, j'ai parlé de la valorisation. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. On a cru voir à un moment donné aussi, dans le cadre des contrats d'objectifs, peut-être une piste à exploiter en se disant, tiens, on va peut-être arriver là, avoir quelques moyens. Mais on a vu que les contrats d'objectifs, finalement, ils sont un peu oubliés, là, en tout cas passagèrement, j'ai le sentiment. Non, en tout cas, je ne revois pas le mien arriver. Pourtant, on y a travaillé d'art. Et d'autre part, on pensait peut-être que ça procurerait ici ou là quelques moyens, en fait. Non. Donc il faut quand même... Simplement, l'innovation a besoin d'un peu de moyens. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, c'est rare qu'elle n'ait pas besoin de moyens. Je me souviens d'une expérimentation que nous voulions faire, qui consistait à mettre des élèves de BTS, de 5 BTS, qui étaient tous des BTS tertiaires et qui avaient tous le même programme d'éco-gestion. Et se dire avec les professeurs d'éco-gestion concernés, tiens, ça serait bien finalement pour les préparer à leur cours ailleurs, si jamais ils poursuivent des études. Alors, beaucoup poursuivaient parce qu'on avait en particulier une licence professionnelle. On s'est dit, ça serait bien que le cours, au lieu de le répéter 5 fois, on le confie à un professeur qui avait les compétences, en particulier c'était un cours de droit, qu'on les mette dans l'amphi, puisqu'on avait un amphi, et puis que on fasse... Alors, évidemment, le gros mot, c'est dire une économie d'heures, hein, bien entendu. Donc il s'agissait évidemment de les réinjecter, bien sûr, dans la discipline, en faisant d'autres travaux. Mais donc, ce n'est jamais du moins, hein, si jamais ça passe par du moins, vous venez me le dire, parce que ça m'intéressera avant que je prenne ma retraite.
Merci beaucoup. Là, je ne sais pas, on a parlé d'autorité académique, il faut que ça s'appelle bien que Bernard Leroux enchaîne.
Merci. Merci. Donc, Bernard Leroux, je suis à IPR de sciences physiques, ex-doyen des IPR et délégué académique à l'action éducative et à la pédagogie. C'est ce que veut dire DAEP, qui est le pôle pédagogique de l'académie, pour résumer, et dans lequel se trouve intégré l'AMIVIP. Alors c'est aussi avec cette double regard, enfin en tant qu'IPR, mais aussi maintenant en tant que délégué académique qui travaille avec Christine, moins qu'elle bien sûr, mais sur le problème de l'expérimentation de l'innovation, que je veux dire deux, trois petites choses. Alors c'est vrai que je crois qu'effectivement l'expérimentation, l'évaluation, quand elle part du terrain, elle ne se décrète pas, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est quelque chose qui naît, qu'il faut entretenir, et en même temps, on sait qu'il y a des injonctions au fond national pour certains types d'évaluation et d'expérimentation. Il y a un programme, de toute manière, avec un certain nombre de pistes à suivre. Alors, ceci dit, quand même, ce que je remarque quand même, c'est que dans les exemples, souvent, qui ont assez bien fonctionné dans le temps venant du niveau national, c'est que les contraintes externes étaient fortes. Je pense entre autres au TPE ou même au TIPE, si ça marche, c'est parce qu'il y a des examens derrière. Mais quand je pense aux IDD, je voudrais bien savoir où ils s'en passent encore dans cette académie. Hein, vous voyez. Donc on sent bien que c'est plus complexe que ça. Hein, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne s'est passé rien, qu'il ne s'est rien passé, mais ceci dit, si on n'est pas en train d'entretenir en permanence, le souffle peut s'éteindre, sauf là où, de toute façon, les équipes ont de toute façon envie de tout le temps être en mouvement et de toujours bouger. Alors moi, je pense, et là, derrière, effectivement, je mets aussi ce que peut faire, ce que doivent faire les corps d'inspection dans ce travail qui rejoint assez l'évaluation, c'est-à-dire que, des innovations, c'est quand on rencontre, alors à la fois, effectivement, s'intéresser à détecter les innovations, les expérimentations, c'est pas toujours facile, comme ça a été dit, la plupart du temps, c'est plutôt les chefs d'établissement d'ailleurs qui nous en parlent, hein, plutôt que parfois les enseignants directement. Parfois, on est surpris d'ailleurs, même après des inspections, de voir que le professeur ne nous parle pas spontanément d'un dispositif dans lequel il se trouve. Mmh. Et Dieu merci que souvent le chef d'établissement nous a dit, ben voilà, et que ça nous permet d'engager les discussions. Mais c'est aussi de susciter l'expérimentation. Bien sûr, j'essaierai de dire quelle attitude ça doit susciter de notre part tout à l'heure. Je crois que surtout, quelque part, lorsqu'on repère, ou lorsqu'on accompagne, ou lorsqu'on suit une évaluation, une expérimentation, il me semble, ce qu'il faut qu'on essaie de faire si, toujours, nous, par rapport à ce problème du transport ou du transfert, bien que je ne suis pas sûr qu'une évaluation en soi soit transférable, parce que, justement, elle est dans un contexte local très particulier, et souvent c'est l'ensemble des variables du contexte local qui fait que d'abord l'évaluation est née, hein, c'est souvent parce qu'il y a des problèmes qui se posent, et qu'au fond, à un moment donné, des équipes se disent « on va essayer de faire autrement hein, », et que ça, ce contexte-là, on ne va pas le retrouver ailleurs. Donc peut-être quelque part, et pour rejoindre cette notion d'évaluation, notre rôle, c'est aussi de dégager des invariants dans ce que l'on voit, des grandes constantes, de façon à au moins transférer et transporter ces invariants et ces constantes, et aussi être en capacité ailleurs d'aider à adapter raisonnablement, j'ai envie de dire, ces invariants. Hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose de l'ordre aussi, comme je le dis, c'est d'être capable de négocier, par exemple, avec les normes. Hein. Je veux dire, un inspecteur qui, à l'heure actuelle, ne négocie pas avec un certain nombre de normes, c'est-à-dire les horaires, les programmes, un certain nombre de choses, s'il ne sait pas faire ça, à mon avis, il ne peut pas laisser se mettre en place des innovations ou des expérimentations. Alors, surtout article 34, qui ont pour but, justement, d'échapper quelque part à ces normes. Alors, je crois qu'aussi, notre rôle, il est quand même d'ouvrir les possibles. Je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, dans cette académie, notamment ces dernières années. C'est si on veut entraîner les enseignants à aller au-delà un petit peu de ce qu'on attend d'eux, c'est de faire passer le message que tous les possibles sont possibles, justement. Alors, bien sûr, on dirait qu'il y a les élèves derrière. Bon, de façon générale, les enseignants ne vont pas inventer des dispositifs qui mettent en danger les élèves. Alors, on doit avoir toujours en regard, évidemment, c'est l'effet sur les élèves, mais je suis d'accord avec mon voisin. Dans un premier temps, on ne pense pas forcément aux effets sur les élèves. C'est pour d'autres raisons qu'on innove. Et puis, éventuellement, il y aura un effet sur les élèves. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, d'ailleurs, nous, on a souvent repéré, hein, dans des analyses qu'on a faites ces dernières années, c'est que parfois, ce qui nous est présenté comme des expérimentations, des innovations, ce n'est qu'une autre façon d'habiller ce qu'on est censé faire et pour lequel il n'y a pas besoin de déclencher une procédure particulière. Ça arrive assez souvent. Alors, je repensais un petit peu, par rapport à cette académie, un type de parcours, parce qu'il me semble que ces dernières années, justement, on voit plus facilement remonter assez naturellement des expérimentations et des innovations. Alors, par exemple, là, on a lancé un appel il y a quelques semaines aux expérimentations sur le lycée. Il nous en est remonté quand même un bon nombre, de façon assez naturelle, sans qu'on ait vraiment besoin d'aller les chercher. Et d'ailleurs, là où on pensait qu'on allait les chercher, il ne nous est rien remonté, finalement. Je trouve ça assez intéressant, de ce point de vue-là. Et il me semble que c'est parce que, aussi... Alors, on parle pas... mon prédécesseur, il parlait de pépites, hein, lui, pas de perles. Et c'est parce que je pense aussi qu'on a eu ce discours sur les notions de pépites, c'est-à-dire c'est les petites choses, au fond, qui ne sont pas forcément compliquées, qui ne révolutionnent pas complètement un établissement, mais qui font qu'on a fait quelque chose qui vaut la peine d'être valorisé. Parce qu'on l'a valorisé, j'ai le souvenir, entre autres, d'un séminaire académique de valorisation d'un certain nombre de dispositifs qui a eu lieu à Angers il y a 3 ans, hein. Et qui était non pas une grand-messe avec des grands intervenants, si je puis dire, mais on a fait parler les professeurs qui faisaient, quoi. Et je crois que c'est ça. Et du coup, ça a permis, au fond, de débloquer, je pense, certaines idées, certaines situations. Je crois qu'il y a ça derrière, c'est-à-dire rassurer tout le monde. Mais ne pas non plus leurrer les gens, c'est-à-dire rentrer dans une innovation, dans une expérimentation, c'est vrai que c'est, sur le coup, plus de travail. C'est évident. c'est sortir de son confort, de son rang habituel. Et là, je suis d'accord que ce surcroît de travail, il faut qu'on trouve le moyen de le compenser. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, l'expérimentation, l'évaluation ne peut pas être basée sur une demande de plus de moyens tout le temps. C'est-à-dire pour moi, une expérimentation, une innovation, elle doit être capable de fonctionner sans moyens supplémentaires à terme. Mais pour amorcer la machine et au moins pour récompenser le surcroît de travail des enseignants, il faut qu'on soit capable de donner un petit peu de mou, de mettre un petit peu d'huile dans la machine et de donner quelques moyens. Ça me paraît extrêmement important. Et puis je voudrais quand même la terminer sur quelque chose que j'ai vécu, parce que j'y ai participé. C'est une innovation qui est partie du terrain, qui s'est au fond plus ou moins imposée à la centrale. C'est quand même tout ce qui est tourné autour des sciences à l'école et de la main à la pâte. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, le niveau central l'a évalué, l'a modélisé et l'a rendu transférable. Puisqu'au départ, dans ses attendus, elle n'est pas complètement. Ce qui ne veut pas dire que là où... Et donc, en le rendant transférable, a un petit peu dégradé la pureté originelle, si je puis dire. Et je trouve que là, c'est un dispositif intéressant à étudier simplement au niveau théorique.
Merci beaucoup. Eh bien, un autre point de vue académique, dans une autre région, Jean Fleury.
Merci. Donc, moi, je vais parler du point de vue du délégué académique à l'expérimentation, donc la partie très directement concernée par l'expérimentation. Le choix qui est fait sur l'Académie de Lyon, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais confirmer deux ou trois idées, c'est le choix de la recherche-développement. Alors, il y a trois choses qui se posent à nous comme questions. C'est d'une part, trouver les actions. Ça fait déjà longtemps que je m'occupe d'innovation, avant même qu'on ne parle d'expérimentation. Donc j'ai entendu les mots perles, truffes, pépites. Effectivement, on est sans arrêt à la recherche, on est un peu des chercheurs d'or, et c'est un vrai problème. Donc, petit à petit, je me dis que le problème du repérage, c'est un problème qui ne peut pas se résoudre comme ça. Et dans l'Académie Lyon, il y a par exemple un dispositif qui s'est monté qui s'appelle Action Formation Recherche, où on travaille le terrain, comme on dit en jardinage, puisqu'on est dans la ruralité depuis ce matin. On bine la terre. Hein. Je pense que les actions formation-recherche, c'est de faire en sorte que les étudiants, j'allais dire, les professeurs, les enseignants, puissent travailler les uns avec les autres, se poser des questions de recherche, sans pour autant innover, expérimenter. Simplement, se mettre en posture de. Et ça se fait particulièrement dans les réseaux, les RRS, parce que là, ils ont la chance d'avoir des stages de réseau. Des stages de réseau qui réunissent premier degré et collège, et là on voit bien l'importance des structures de fonctionnement hein, qui permettent ou qui ne permettent pas. Et là, ils travaillent avec des chercheurs, et il y a des choses qui peuvent se développer, et à partir de là, je pense que les gens sont mûrs pour se mettre dans une démarche d'expérimentation. Donc premier temps, trouver les actions, pour moi, c'est biner le terrain, hein, et puis après, pouvoir en faire quelque chose. Deuxième élément, c'est justement les encourager, les conduire, développer. Là, on essaye de mettre en œuvre ce qu'on a appelé des conseillers en développement. Autrement dit, pas seulement des accompagnateurs, comme je l'ai déjà dit, parce que l'accompagnateur, ça voudrait dire que le mouvement est dans les équipes et qu'on les accompagne. Donc, accompagner, ça veut dire partager le pain à côté, hein. De quelqu'un. Là, ça n'est pas partager le pain, c'est lui fournir les ressources, c'est l'encourager, c'est de le faire pousser. Hein, donc c'est une posture de jardinier, en quelque sorte. Et puis, le dernier temps, c'est transporter, comme l'a dit Jean-Louis Derouet, l'innovation, l'expérimentation. Ce qu'on essaie de faire, c'est pour la transporter, c'est justement réfléchir sur les conditions d'existence de ces expérimentations, à quelles conditions peut-il y avoir des expérimentations dans un établissement scolaire, à quelles conditions managériales, par exemple, à quelles conditions en termes de savoir, de savoir-faire. L'évaluation, c'est aussi un élément de transport, parce qu'en en regardant ce qui marche et pourquoi ça marche, on peut en parler ailleurs. Un autre élément de transfert qui est important, c'est aussi les rencontres entre les gens. on le voit bien aujourd'hui, sur ces deux jours, donc à Lyon, mais dans les autres académies aussi, je le sais, on organise des forums, donc là où les gens peuvent se contacter, se côtoyer et s'encourager mutuellement, se donner de l'énergie. Je crois beaucoup à cette idée d'énergie. Comment donne-t-on de l'énergie aux personnes pour qu'elles se tournent favorablement et positivement? Dans ma carrière, dans ma mission d'inspecteur, parce que je suis aussi inspecteur de terrain, pour reprendre l'idée de terrain, je suis toujours, quand je parle avec les professeurs que j'inspecte, je vois toujours qu'ils ont toujours beaucoup de bonne volonté et qu'ils sont toujours prêts à réfléchir. Hein. Donc c'est pas tellement le fait que les gens ne veulent pas bouger, mais c'est qu'ils ne sont pas en situation de bouger. Et je crois que là, ça me paraît important de considérer ça. Comment est-ce qu'on met les gens en situation de bouger? Donc pour conclure très généralement cette rapide intervention, je dirais, il y a quatre questions que je poserai. Premièrement, expérimenter, pourquoi faire? Donc expérimenter, c'est pour répondre aux questions d'aujourd'hui, l'école est en phase obligatoire, nécessaire de mutation. Les publics ont changé, la forme scolaire, l'école de masse par rapport à l'école élitiste, etc. etc. Donc on ne peut plus adopter les modes de faire du passé. Donc il faut trouver de nouveaux modes de faire, et on voit que la séquence de cours ne marche pas, ou marche très mal, à une efficience extrêmement modérée. Donc l'expérimentation, c'est pour trouver de nouvelles solutions dans le système. Et ça me paraît important de l'affirmer. C'est pas seulement pour du local, mais c'est aussi pour du global. Et justement, les conditions de base de l'expérimentation, je les ai dites aussi, ce sont des conditions de management. Alors j'ai été content d'entendre le mot management tout à l'heure, parce que en général, quand je le prononce, ça fait hérisser les cheveux sur la tête des gens. C'est un gros mot dans notre système. Donc le mot management me paraît être au contraire un mot tout à fait apte, adéquat pour pouvoir contribuer à favoriser le mouvement des gens. Donc leur donner des rôles, leur donner des responsabilités, les faire exister. Mais d'une façon positive, parce qu'encore une fois, je crois que tout un chacun, nous cherchons à exister. Si nous pouvons exister dans notre travail, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Troisième point, le problème aussi qu'on a en général, c'est que la pédagogie n'est pas un vrai objet de débat. Ce qui est un objet de débat, c'est les moyens, c'est des indicateurs quantitatifs qui ne parlent que de très loin de la pédagogie. Donc tout ce qui est en l'enjeu, je crois, de ce système d'expérimentation, c'est de mettre la pédagogie comme objet de débat, donc de savoir de quoi on peut parler en termes pédagogiques. Et quatrième point, ce qui me paraît aussi tout à fait important, c'est Monsieur l'inspecteur général Bonnour qui l'a prononcé, je crois, c'est de passer d'une recherche particulière à une recherche générale. Parce qu'effectivement, il faut relier fortement les expérimentations à une recherche générale. Et ça demande à ce qu'il y ait un travail collectif très fort dans notre système, entre la formation, entre l'orientation, la carte scolaire, les moyens. Et c'est sans doute ça sur quoi nous avons beaucoup de marge de progression. Et en tant que délégué académique à l'expérimentation, je l'éprouve tous les jours, on a beaucoup de mal à faire un travail d'ensemble, parce que chacun a ses préoccupations, parce que chacun a ses logiques. Et encore une fois, ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais parce que ça se comprend. Mais disons qu'il faut créer un système global qui permette que l'expérimentation puisse conduire à des résultats d'investissement. Voilà, en quelques mots.
Merci Jean. Eh bien, s'il s'agit de passer du particulier au général, j'ai fait la transition faite avec le ministère, en particulier avec la DGESCO et la MIVIP.
Bonjour à tous. Je me présente, donc Richard Buty, je suis de la DGESCO, donc Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, et comme je vous rejoins, donc je fais partie du service de Madame Verret, donc de la mission de valorisation des innovations pédagogiques. Difficile tâche que la mienne, après avoir écouté tous nos interlocuteurs, simplement rappeler probablement certaines évidences pour la plupart d'entre vous, mais peut-être aussi nourrir, si le temps me permet, d'exemple mon intervention. Pour commencer, tout d'abord, rappeler bien sûr que, et ça a été dit plusieurs fois, que les expérimentations sont inscrites dans le cadre de la loi, avec l'article 34, que régulièrement la DGESCO, le ministère, a renouvelé le droit de s'inscrire dans le cadre de cette loi à travers les circulaires de rentrée de 2006 et la prochaine circulaire de 2009. Il faut savoir que effectivement, la prochaine circulaire de rentrée va insister auprès des recteurs sur la nécessité de susciter l'expérimentation et de l'accompagner. Je ne sais pas si Madame Véret vous l'avait dit précédemment. Voilà. Nécessairement, pourquoi ? Parce que la DGESCO pense que la DGESCO, le ministère, la mission de valorisation et innovation pédagogique, l'ensemble, pense que l'expérimentation est un levier, que c'est un levier pour le changement du système éducatif, mais que ce n'est pas un changement par la force. C'est un changement qui se fait par l'expérimentation que donne le... Alors, pardonnez-moi, le terrain. C'est une possibilité de s'engager vers des voies, certaines voies, mais il faut ne pas oublier que c'est d'abord l'expérimentation une problématique locale, c'est-à-dire qu'elle répond d'abord à un besoin local et que le fait de pouvoir la transférer, pour ne pas faire un barbarisme, n'est pas forcément obligatoire. Je dirais presque que c'est presque, pardonnez-moi de le dire comme ça, ça peut être un acte gratuit. On espère qu'il ne soit pas complètement gratuit, au final. Pardonnez-moi, monsieur l'inspecteur général. Mais le but étant quand même de répondre d'abord à, effectivement, une problématique locale. Donc on donne le droit d'explorer, mais ça ne se fait pas de façon autoritaire, de sorte que le terrain s'approprie toujours ce droit à partir de ce dont il a besoin. Madame Heurtebise vous a probablement parlé des sciences intégrées hier, et dans le cadre des sciences intégrées, le but n'est absolument pas de modéliser, mais de tirer le meilleur et peut-être de l'inscrire dans des méthodes de travail, peut-être dans des programmes, mais ce n'est pas systématique. L'expérimentation tient compte des problématiques locales et elle permet, et là je rejoins M. l'inspecteur général, de gérer le croisement entre les politiques locales et les orientations nationales. Et si vous me permettez, je vais nourrir mon intervention de cet exemple. Je m'occupe principalement, je ne l'ai pas dit en me présentant, je recueille, on va dire, les productions écrites, les travaux de certaines académies, La Réunion, Besançon, Rennes, l'Académie de Versailles et de Strasbourg. Et je m'occupe également, parce que je suis certifié d'espagnol, de toute la thématique qui est langue et TIS, langue et nouvelles technologies. Et dans ce cadre, j'ai pu observer, et c'est pour revenir sur la question du local qui se croise avec les orientations nationales, j'ai pu observer que j'ai eu auparavant à mettre en place les certifications en langue, aussi précédemment à la DGESCO, et dans le cadre de la mise en place de ces certifications en langue vivante, vous le savez, des prestataires partenaires de l'éducation nationale, l'Université de Cambridge en anglais, l'Institut Cervantes en espagnol, produisent des tests qui sont effectivement soumis aux élèves et ces tests sont corrigés par les enseignants du système éducatif. Mais ces tests ont été produits en partenariat avec l'inspection générale, sous contrôle de son expertise également, mais en partenariat avec ces organismes certificateurs, pour positionner l'élève par rapport à son niveau en langue. À partir de ce positionnement, dans un deuxième temps, on voit, quand on observe les remontées, si je peux le dire comme ça, c'est pas la meilleure façon de le dire, mais quand on observe les productions écrites qui nous reviennent des expérimentations qui ont attrait aux langues vivantes, on observe que dans les 9%, je ne sais pas si on vous a parlé un peu des statistiques de ce que reçoit la MIVIP, mais en gros, tout ce qui a à voir avec les langues vivantes, c'est en gros 9% de l'ensemble des expérimentations de la MIVIP. Et dans ces 9%, on peut dire que 60%, excusez-moi de rentrer dans beaucoup de chiffres, mais je vais revenir très vite au concret, 60% de ces expérimentations sont l'organisation de l'enseignement des langues vivantes en groupe de compétences. Et ça constitue une expérimentation. De ce fait, on se dit, tiens, voilà le cadre européen commun de référence du Conseil de l'Europe de 2004 est quelque chose qui vient d'en haut, si je peux dire ça comme ça. La mise en place des certifications en langue vivante est aussi quelque chose, c'est un partenariat ministère de l'Éducation nationale et les organismes certificateurs, c'est quelque chose qui vient d'en haut, mais par contre, on voit surgir de nouveaux indicateurs. Et là, je voudrais dire que les contrats d'objectifs sont directement liés au projet d'établissement. Et de ce fait, l'expérimentation elle-même est dans le projet d'établissement. Donc il y a quand même un lien entre le projet d'établissement, le contrat d'objectifs et l'expérimentation. Et quand on retrouve les productions écrites des académies, on va trouver des nouveaux indicateurs qui vont illustrer. Et donc c'est ce que je veux, c'est là je veux parler du croisement entre l'expérimentation et l'orientation nationale, on va trouver de nouveaux indicateurs qui vont utiliser les positionnements des élèves B1, tant de pourcents dans telle académie, au résultat du test Cambridge en anglais, CEC, Cambridge English Certificate. On a 40% de B1, eh bien, on prévoit l'année suivante 50%. Comment, étant enseignant en langue, il est extrêmement difficile de jouer sur une matière si peu quantifiable qu'est la production orale d'un élève et se dire qu'on va pouvoir jouer sur cette qualité de renforcement de la pratique de l'oral sous forme d'indicateur. Donc voilà, je voulais simplement illustrer par cet exemple que l'on trouve effectivement de nouveaux indicateurs et qu'effectivement il peut y avoir un croisement entre des expérimentations de groupes de compétences qui là sont faites par les académies et quelque chose qui venait d'en haut tout d'abord. Mais ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Alors, pour certains, je reviens un petit peu à mon exposé, pour certains, la nécessité d'évaluer et de suivre les expérimentations pourrait paraître une utopie, un affichage qui ne répondrait pas à la question de l'autonomie des établissements. Mais il se trouve, en tout cas, c'est ce qu'on pense à la DGESCO, il se trouve que l'expérimentation favorise quand même énormément la prise d'autonomie de l'établissement. Je pense que monsieur l'avait montré dans son intervention. L'évaluation, quant à elle, elle est faite par tous les partenaires du système éducatif. La division d'évaluation des performances prospectives et performances, l'INRP, sont des partenaires du système éducatif qui vont participer à cette évaluation. Elle est faite aussi, et surtout, et d'abord, et je crois que monsieur nous l'a dit aussi, elle est faite tout d'abord en auto-évaluation par les équipes. Ensuite, le chef d'établissement. Et
c'est moi la même évaluation.
Voilà, ce sont des regards croisés, tout à fait. Et elle est faite, et il faut beaucoup, je pense, considérer beaucoup ce dernier aspect, elle est faite aussi sous forme d'un accompagnement des IAIPR. Je pense que ce dernier aspect est important. L'évaluation n'a pas vocation à identifier ce qui fonctionne pour que ce soit immédiatement transférable. Il se peut que l'on commence quelque chose qui ne fonctionne pas. On peut redresser, excusez-moi un petit peu de parler comme ça, mais on peut redresser le tir, identifier ce qui éventuellement peut-être transférable, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais d'actes gratuits, c'est un peu violent, mais il n'y a pas une obligation de transfert immédiat. Le transfert se fait par mutualisation, il se fait par imprégnation des uns et des autres, et c'est tout le rôle de la MIVIP, des MIVIP, de mettre en perspective un petit peu tous ces projets. Les recherches de l'INRP aussi contribuent à cela. Chaque équipe qui expérimente doit s'évaluer. S'évaluer, c'est communiquer. C'est rendre visible, rendre cohérente une démarche. Et ce sont les établissements et les rectorats qui, en premier lieu, doivent le faire. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, merci de ce que vous avez apporté. Merci aussi d'avoir tenu le temps, ce qui nous laisse une demi-heure hein, pour discuter. Alors, merci aussi à François Muller qui a essayé de mettre sous forme graphique les grands champs de questionnements qui sont apparus, de questionnements, de questions sans réponse, hein, qui sont apparus en résultat des ateliers. Bon, il me semble que dans ce tour de table, et par un heureux hasard, vous n'êtes peut-être pas un heureux hasard, on a des éléments, on a balayé, je dirais, la question concept, expérimentation, évaluation, et la question aussi fonctionnement institutionnel, c'est-à-dire comment, à l'intérieur de l'établissement, l'évaluation partagée, etc. Il y a d'autres champs. Alors, il y en a un qui est très spécifique à mi-critique, mais ça, c'est une production locale, émergente. Ne vous inquiétez pas, on vous expliquera. C'est la question de la bonne distance, hein, de la bonne distance pour évaluer, conseiller, accompagner. Et puis, le champ processus qui a peut-être été moins travaillé. Alors, je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'on... On donne la parole à la salle pour faire réagir et ensuite on va prendre trois ou quatre questions et puis on vous demandera de réagir. Voilà. Alors, n'hésitez pas à répéter d'ailleurs les questions que vous avez mises dans la boîte à questions ou qui ont été présentées dans les rapports d'atelier. Moi, je vais reprendre, mais ça ne confisque pas la parole. Je vois une des questions qui avait été posée hier soir à la suite d'un des ateliers. Enfin, je vais à la fois la reprendre et un tout petit peu la transformer. Elle avait été posée sur la question, l'évaluation du processus n'est-elle pas aussi importante que celle des résultats? Bon, la réponse est bien sûr les deux. Mais le problème ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que l'évaluation des processus, c'est une chose... l'évaluation des résultats, ben justement, vous évoquiez la question des indicateurs. Ben on a les indicateurs de l'ADEP, on a les indicateurs de PISA ou je ne sais pas quoi. Il est à peu près impossible, enfin il est fondamentalement impossible, de croiser les indicateurs qu'on peut avoir sur un processus d'innovation locale. Et puis si on croise ça avec, je ne sais pas, le taux de redoublement, le taux de réussite au brevet, au baccalauréat, etc., ben on aboutit immanquablement à la conclusion que rien ne sert à rien. Parce
évidemment,
que ce n'est pas une innovation réussie qui va faire spectaculairement évoluer. Bon. C'est une affirmation vertueuse, mais enfin, le but de l'expérimentation, c'est de faire mieux réussir les élèves. Donc, comment est-ce qu'on articule les deux, hein? Ça me paraît peut-être une question sur laquelle nous pourrions revenir, mais ça ne doit pas empêcher.
J'aurais une petite question. Quelle est l'articulation entre le socle commun et l'expérimentation?
Avec ça, on va pouvoir meubler la place à la minute.
Moi, je vais partir de l'image de la pépite, finalement, et du chercheur d'or. Évidemment, dans la recherche d'or, il y a comment, le chercheur qui trouve des puits dans la rivière, mais il y a toujours un chercheur qui trouve un filon. Et puis, il y a aussi la mine d'or qui est exploitée par une entreprise, par un producteur qui trouve le chercheur d'or. Alors, j'ai l'impression quand même que quand on parle d'enseignement intégré des sciences, on a parlé éventuellement de la main à pâte. Ça, c'est qu'on avait plutôt affaire à la mine, pas véritablement au chercheur qui cherche la pépite dans une rivière. Et je voudrais savoir, quand on gère une mine d'or comme l'enseignement intégré des sciences, ou la main à pâte, des dispositifs comme ça, ou la certification des langues vivantes, la certification des compétences, est-ce qu'on peut encore parler d'expérimentation? Et si on parle d'expérimentation, quelle articulation on peut faire avec un projet d'établissement et une expérimentation conduite au niveau d'un établissement scolaire?
Si.
En survolant là, ce qui a été dit, qui était évidemment riche, il me semble discerner une espèce de tension, hein, puisque tout de même, il y a une différence entre repérer une perle et biner. On n'est pas sur le même geste et le surgissement n'est pas le même. Je mettrais aussi un peu dans le même ensemble l'innovation comme prescription nouvelle, alors le socle commun, le cadre européen des langues, enfin, bref, vous pouvez en trouver d'autres, hein. Et puis cette idée développée par Richard Buti que la véritable innovation, la véritable expérimentation, elle vient par surgissement, c'est quelque chose de spontané. Et au fond, la question que je poserais pour résumer en raccourci, c'est: mais est-ce que ces prescriptions qui viennent d'en haut, qui s'imposent à tous et qui sont donc déjà instrumentées, ça ce sont les propos de M. Bonneau, est-ce qu'elles ne mériteraient pas aussi des conseillers en développement? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin du même type d'aide finalement que pour ce qui surgit spontanément ou qui est repéré comme une perle par tel chef d'établissement ou par tel corps d'inspection? Donc, est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas généraliser l'expérimentation chaque fois qu'on fait une prescription nouvelle? C'est ça.
Je vais passer la parole à qui la demandera. Chasseur de truffes, pêcheur de perles, retour des placers guyanais.
Oui, c'est ça. Par rapport à toutes les questions, mais réagir à deux, trois points. Déjà, parfois je pense que des équipes rentrent en expérimentation ou acceptent l'expérimentation, vont faire de l'innovation, parce que c'est une question de survie. Moi, il me semble qu'à chaque fois qu'on arrive à mettre. Soit parce que dans un établissement donné, à un moment donné, parce que la situation a conduit à une mise en déstabilisation profonde ou en tension, ou qu'on arrive à le provoquer quand on est sur des orientations adjonctives, j'ai envie de dire. Si effectivement, à un moment donné, quelque part, alors oui, survie entre guillemets, bien sûr, survie pédagogique, mais aussi d'ailleurs parfois simplement survie de confort, hein, j'ai envie de dire, on voit bien que c'est plus facile que les équipes ou que dans les établissements, il se passe quelque chose. J'en veux pour preuve d'un certain nombre de choses qu'on voit ici. Par exemple, des rapprochements entre des disciplines technologiques et générales, hein, comme ISI, sciences physiques, NPI, etc. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'on a moins d'élèves à aller vers l'enseignement technologique. Donc, au bout d'un moment, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Bon. Des options du même type, voilà. Souvent, on a constaté ça. Enfin, moi, il me semble, hein, je dis plus compliqué que ça, mais enfin, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est toujours plus facile de faire bouger les choses. Alors, je crois aussi derrière, alors, où les contraintes et le terrain, où les terrains sont importants, parce que l'expérimentation, elle n'est pas. Elle ne touche pas que l'acte pédagogique. Hein. Elle va toucher aussi l'organisation propre de l'établissement. Donc là, il faut rencontrer aussi quelque chose de l'ordre du chef d'établissement. Parce que tous les chefs d'établissement ne sont pas prêts à modifier l'organisation de leur établissement pour laisser fonctionner une petite structure ou quelque chose. Alors, une autre chose, et ça a été évoqué, à propos, moi, je parle de médiation, rapport écrit. Ce qu'il me semble en tout cas, parce qu'on l'a vécu encore il n'y a pas longtemps avec Christine, c'est que à chaque fois qu'avec des équipes qui expérimentent, il y a eu quelqu'un qui est venu effectivement faire une médiation qui se termine par de l'écrit, hein, et un écrit réfléchi et d'analyse surtout. Et là, on vient sur les processus, les procédures. Quelque part, après, ça allait beaucoup mieux finalement. Et d'ailleurs, ça facilite la pérennité de l'expérimentation, de l'innovation, et parfois ça peut aider à son transfert, à son transport, quelque chose comme ça. Alors, je pense qu'il y a un vrai problème, enfin, quand je me place en tant qu'inspecteur, si, parce que c'est aussi des questions qu'on se pose en ce moment, c'est faire le suivi des expérimentations avec des inspecteurs, Est-ce que ce sont les mieux placés pour l'évaluer? Je n'en suis pas sûr. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui est dans un triptyque, au moins, effectivement, l'anévite, je crois, parce qu'il y a de l'expertise forte, les inspecteurs et le chef d'établissement. Voilà. Quelque part, quelque chose autour de ça, pour peut-être qualifier, sans vouloir dire évaluer, mais au moins qualifier quelque chose autour de l'expérimentation. Voilà.
Après, je vais sortir un retour à Envie.
Oh, bah, je vois bien
ça. Alors ça...
Ça serait étonnant.
Tu n'as pas envie de dire quelque chose.
Je veux bien,
d'accord.
Je prends rond, parce que sinon...
Oui, après... Donc ça va m'obliger à être concis, mais tu as raison de prendre des précautions. Je voudrais essayer de revenir sur les quatre finalement questions qui étaient posées, peut-être en les liant un peu les unes aux autres. Je veux dire que la mi-critique, alors là, puisqu'il faut savoir se mouiller, être un peu personnel et subjectif, ce que j'ai entendu hier sur la mi-critique m'a amené plusieurs interrogations. Une à propos du rôle de l'inspecteur et puis l'autre dans le domaine de DD. Donc successivement, le rôle de l'inspecteur. Je vous avouerai, Romuald, que la première personne que j'ai interrogée, c'est moi. Je me suis dit, finalement, ben oui, quand je vais dans un établissement, dans quelle posture est-ce que je me place? Et effectivement, quand on suit une expérimentation, la situation est extrêmement ambiguë, parce qu'on la regarde avec beaucoup de bienveillance, avec quelque chose de... Enfin, quand je dis c'est de bienveillance, c'est quelque chose de positif. On va chercher ce qui marche, on va chercher à comprendre. Puis au bout d'un moment... On va aller faire un peu plus, on va questionner, puis on va proposer, etc. On va s'investir. Et à partir du moment où on participe à cela, alors on est un ami critique constructif. Et puis après, quand il faut faire la note pour dire qu'est-ce que j'en pense de ça, on est tellement investi, on y croit tellement, est-ce qu'on peut encore jouer un rôle d'évaluateur extérieur? Donc, à partir de cette expérience personnelle, excusez-moi d'être parti de là, mais enfin, vous nous avez tellement tendu, invité à ce dérapage qu'on pourrait considérer en d'autres circonstances comme non professionnel, je n'ai pas pu résister. Je suis allé justement sur la question que reposait Bernard Leroux, c'est-à-dire, c'est toute la question de, finalement, quand on demande à un corps d'inspection d'accompagner un projet, est-ce qu'on n'est pas dans une ambiguïté totale? Et je crois qu'il faudrait vraiment qu'on se pose très sérieusement la question de l'accompagnement, des concepts comme le pilotage partagé avec un chef d'établissement. Vous voyez, je pense à tout cet ensemble de définitions de fonction des corps d'inspection. Je crois que la réflexion théorique que vous avez eue sur la mi-critique est quelque chose qui nous servirait et qu'il faudrait vraiment qu'on poursuive pour justement ne pas clasher. Est-ce que ce sont les mêmes personnes? Est-ce que c'est lié à la fonction? Est-ce que c'est lié à la mission? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on va missionner un inspecteur pour faire un type de travail et en missionner un autre pour faire un autre type de travail? Bon, bref, je vous ai dit ça en vrac. Je crois que là, il faut... c'est juste des questions. Le deuxième point, puisqu'on s'est demandé quand même qui peut être l'ami critique, juste une remarque au passage de quelque chose de particulier qui est le DD, où justement on travaille avec des chefs d'établissement et des collègues, beaucoup discuté, qui pilote le groupe DD de l'établissement. Alors, certainement pas le chef d'établissement, là on comprend, ça ne peut pas être l'ami critique. Un groupe d'enseignants, oui, mais on a un problème des fois de hiérarchie de légitimité. Et on sait que certaines associations, alors attention, c'est limite, ont proposé d'accompagner, alors entre guillemets, j'en pose toujours le même mot parce qu'il ne veut rien dire, hein, on met ce qu'on veut derrière, d'accompagner le processus. Et je me suis demandé si dans certains cas, ça ne pouvait pas être valide. On voit, j'ai vu des bonnes réalisations dans l'Académie de Grenoble, mais avec des associations qui ont un passé de lien avec l'éducation nationale, d'habitude de travail qui est telle, je vais essayer d'enchaîner les deux, trois idées, avec un passé éducationnel qui est tel qu'ils ont à la fois l'extériorité et le même langage et la compréhension complète des enjeux. Autrement, la chose peut être excessivement dangereuse. Donc, cet ami critique, alors bon, qui accompagne. Ensuite, c'était la quatrième question, c'est le... Ah oui, il y avait Binet et repérer le terrain. Je voudrais redire quelque chose qu'on a dit ce matin en atelier entre Binet et repérer la perle. Moi, je me demande si Binet, ça n'est pas tuer la crainte. Parce qu'on a beaucoup, parlé dans un atelier du fait que à chaque fois qu'on innove, il y a un paradoxe. C'est-à-dire, quand on est injonctif en disant innover, oui, mais il faut que j'innove. Bon, on crée en même temps la crainte. On crée parfois éventuellement d'ailleurs la suspicion, etc. Donc, Binet, c'est peut-être simplement permettre à la truffe de pousser ou à la perle de... Bon, bref, c'est peut-être simplement faciliter ça. C'est travailler sur le sédiment. Travailler, c'est ameublir le sédiment pour que tout le monde ose expérimenter. Je me demande si ce n'est pas un peu ça, le rapport de tension. Enfin, c'est une proposition. Et accompagner quand on est injonctif, Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en place un dispositif, d'aide au développement? Certainement, mais ça me semble que c'est bien ce que la DGESCO a fait, par exemple, en force lors du lancement des TPA. C'est également fait, un autre niveau, par exemple, le lancement de l'EDD, avec des interacadémiques systématiques. Donc, il y a un certain niveau, quand même, d'accompagnement qui est absolument nécessaire et qui était moins fort, me semble-t-il, sur les IDD. Et donc, je suis entièrement d'accord avec Bernard Leroux, là, sur le fait que le bac, les examens, soient un facteur puissant de succès des TPE. Mais je pense que la faiblesse de l'accompagnement des IDD est aussi un des éléments qui fait que les choses n'ont pas marché, venant après des changements du nom des dispositifs, très alarmants d'année en année, même si l'idée était finalement la même. Et sur cet accompagnement, j'en reviens parce qu'une autre question qui était sur les processus, évaluer le processus autant que les résultats, et j'en reviens au lien entre cet accompagnement des injonctions et le traitement des processus. Une chose qui me semble claire actuellement, c'est qu'on a quand même passé au travers d'un certain nombre de changements de paradigme dans l'enseignement. Je ne sais plus qui allait de façon très radicale ce matin, jusqu'à la structure du cours, de la discipline, etc. Bon, mais on s'aperçoit qu'il y a d'autres façons pédagogiques de travailler, d'autres méthodes qui se mettent en route. Et pour en citer, mais ça m'avait frappé en réunion d'inspection à Nantes, il n'y a pas très longtemps, c'est d'entendre parler successivement, ça devait être du B2I, de l'histoire des arts, et ceux qui me connaissent sauront qu'évidemment j'ai injecté le DD. c'était évident, dans lequel on retrouve des choses communes, par exemple la transversalité. Est-ce qu'on ne devrait pas, là, concevoir un accompagnement des processus autour de quelque chose qui sera un peu méta? On ne va pas accompagner l'histoire des arts, on ne va pas accompagner le DD, on ne va pas accompagner le B2I, mais on va accompagner par une maîtrise de la transversalité de sa gestion dans les processus et dans les pratiques pédagogiques, sur quelque chose qui sera un outil multifonction, qui pourrait être transférable à d'autres choses. On voit bien, depuis hier quand même, qu'on est dans de la gestion de projets en permanence. Les lycées agricoles ne font que ça. Enfin bon, faut pas que ça, mais ils ont une maîtrise parfaite. Les lycées d'enseignement professionnel aussi. Quand on regarde ce qui se passe dans l'enseignement, au quotidien, tout le monde fait de la gestion de projet, mais souvent sans le savoir. Exactement. Le professeur qui sort de son cours en se disant « Zut, aujourd'hui je me suis planté, mais pourquoi ?» Et puis je réévalue et fais une démarche dite d'amélioration continue. Il évalue de façon sauvage, il remet en cause, il reprend le processus. Est-ce qu'on ne gagnerait pas énormément d'énergie dans l'accompagnement justement de l'innovation ou de l'expérimentation, tout ce qu'on veut aujourd'hui, en faisant une sorte de méta-accompagnement sur des méthodes de travail, sur la gestion de projet à tous les niveaux, ce qui permettrait au professeur de comprendre ce que fait le chef d'établissement quand il gère un projet, sans forcément que le chef d'établissement lui explique toujours pourquoi il fait ceci ou cela, hein. Mais il comprendra au moins la méthode et il pourrait y adhérer et arrêter de trouver que c'est une usine à gaz que de faire de l'évaluation, de la rétroaction, de la remise en cause et des bilans réguliers. Voilà quelques réactions aux quatre questions qui ont été posées.
Je crois que Denis Schecker s'était immédiatement inscrit sur la liste des intervenants.
Mais non, mais c'était pour une boutade, pour faire en sorte que Gérard ne me lise pas la parole, parce que je le sais. Mais non, mais c'est toujours très intéressant de l'écouter. Deux, trois remarques, et puis maintenant j'ai un petit peu perdu le fil, mais c'est pas grave. Amis critiques, vous dites, est-ce que le chef d'établissement peut l'être? Je vois pas qui d'autre. Alors certes, on peut être ailleurs, vous savez, ah non ben moi non, et quand on dit a-t-il de la légitimité, mais moi j'ai toute légitimité sur tout l'ensemble des projets qui sont dans mon établissement, d'accord, après, derrière, je peux me tromper, parce que derrière il y a le je dis oui ou je dis non à tel projet, hein. Si par exemple, j'ai deux exemples qui m'arrivent là, un atelier cinéma, machin, truc compliqué, je passe dessus, j'ai dit oui. Je reprends mon oui l'année d'après. Pourquoi ? Pas assez d'élèves, pas d'objectifs précis, rien en termes de visibilité, un intérêt personnel partagé par 3 ou 4, des moyens utilisés, etc. J'en vois pas le truc. Finalement, je dis non. Bon, bien sûr, dire oui, c'est beaucoup plus facile que dire non, hein, parce que quand on dit non, il faut aller s'expliquer. Bon, il se trouve que je commence à avoir l'âge de savoir expliquer quand je dis non, et puis... Tant pis, si ça ne passe pas, on fait un nez comme ça pendant 4 jours, et puis au bout de 5 jours, le nez revient à sa taille normale. Bon, c'est tout, basta. Je peux m'être trompé fondamentalement là-dessus, bien évidemment. Peut-être que là, j'ai écrasé une perle et que je n'ai pas su, peut-être. Mais bon, à côté de ça, j'ai essayé d'en faire
croître, embellir, de cultiver par ailleurs d'autres pousses. Donc pour moi, il est évident que le premier ami critique, il est celui-là. Le deuxième point qu'il faut éviter, et là c'est une petite pierre dans le jardin de mes amis IPR, il faut toujours bien savoir qu'à un certain moment, une innovation devient un enjeu de pouvoir. Et ça, c'est le manager qui parle. Et à partir du moment où ça devient un enjeu de pouvoir, il faut surtout faire une chose, ne pas donner à ceux qui éventuellement n'ont pas de pouvoir, le pouvoir de vous filer un sac de grains de sable dans le rouage. Et là, tout est possible, y compris de la part de l'ami VIP. Non, mais c'était pas une affaire actuelle. Mais je veux dire par là, un professeur chez qui vous venez commencer à chercher, vous venez commencer à triturer, vous venez commencer à aller regarder, peut lui faire passer toute envie d'innover. Donc il faut être extrêmement prudent dans tout ça. Vous voyez, là-dessus, en plus, il y a une com' qui est faite derrière. Alors, je prends un exemple. La com' qui a failli être mise en place sur les groupes de langue pendant les vacances de février, ça m'aurait tué totalement tout le truc qui était petit à petit amorcé, avec toutes les prudences qu'on pouvait avoir pour mettre ça en place. Pas considérer que c'est peut-être une innovation, mais enfin, il y avait là, pour vous dire simplement que derrière, dès que l'institution s'empare de quelque chose, il faut être extrêmement prudent sur savoir quels sont les effets induits, corollaires qui vont là. Inversement, il faut surtout bien faire adhérer ou associer, même s'ils n'adhèrent pas tout de suite, associer au projet innovant ceux qui, le cas échéant, s'ils n'étaient pas associés, ne manqueraient pas de vous mettre quelques grains de sable dans l'affaire, ne serait-ce qu'au motif qu'ils n'ont pas été associés. D'autre part, sur encore autre chose sur l'innovation. Mais l'innovation, c'est la vie. Une entreprise qui n'innove pas, une entreprise qui ne sort pas des produits innovants, elle s'arrête. Moi, j'ai été président de Greta pendant des années. Un des axes du développement du Greta, c'est combien de produits innovants annuellement on va sortir. Les produits innovants, c'est des produits de formation qu'on va sortir là. Donc c'est là-dessus qu'on est. Alors après, innovant, bah pour certains, l'innovation, c'est un truc qui pour d'autres a été fait depuis des années dans l'enseignement agricole. On fait des trucs qu'on découvre maintenant ou qu'on a découvert il y a quelque temps. Et alors, c'est pas le problème. C'est pas de savoir qui a l'antériorité. Le problème, c'est de savoir si cette innovation, mise dans telle ou telle équipe ou produite par telle ou telle équipe, va la mobiliser, va faire une gestion de projet par derrière et va les faire vivre. Voilà, c'est ça qui, moi, m'intéresse. J'allais même dire que quand on m'apporte des projets dans les deux maisons que je suis censé diriger, il y a des projets quasiment tous les jours. Ça, c'est vraiment un grand bonheur. Mais moi, ces projets-là, ils m'intéressent jusqu'à quel point ? Ils m'intéressent bien sur toute l'ingénierie qui est à déployer pour qu'ils puissent se mettre en place. Une fois qu'ils sont mis en place, ils ne m'intéressent plus tellement. Voilà, je suis fabriqué comme ça. Voilà, le projet philo dont vous avez peut-être parlé. Ça y est, c'est... Voilà, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller trouver autre chose. Alors, sur Binet, un tout petit adage agricole. Un binage vaut deux arrosages, qui va le même, trois épandages d'engrais. Nous sommes donc pleinement dans le développement durable.
Mais alors, comme les pierres sont tombées dans le jardin des IPR, effectivement, on va
leur donner... Une seule.
Alors, il faut quand même un peu sarcler.
Mais une bonne pierre quand même. Mais en tout cas, je rends aussi hommage à l'enseignement agricole, par ailleurs, qui a montré ses capacités d'innovation qui étaient intéressantes. Et justement, l'enseignement agricole a montré ses capacités d'innovation parce qu'il avait des caractéristiques qui lui autorisaient ça. Un public particulier, des chantiers particuliers et un commandement aussi particulier. Mais je reviendrai sur l'ami critique, entre autres, et puis sur l'inspecteur en particulier, et sur le chef d'établissement aussi. Je crois qu'il y a, dans notre système, dans ma maintenant assez longue expérience, je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement difficile et qui provoque des effets assez pervers, c'est justement l'ignorance des enjeux de pouvoir, que vous avez bien noté, et puis d'autre part la confusion des rôles. C'est-à-dire que les personnes apparaissent comme interchangeables, pouvant tout faire. Quand vous avez dit, M. Schenker, que le chef d'établissement était un ami critique, je ne pense pas que le chef d'établissement soit un bon ami critique. Ce n'est pas un ami, le chef d'établissement. C'est, pour moi, vous l'avez dit aussi, c'est plutôt un manager.
Donc là, de ce côté-là...
Oui, dans ce sens-là, oui, mais moi, je reprends le terme qui est là.
Oui, ça, oui, non, mais
d'accord,
justement...
D'accord, si j'ai un ami de personne.
Oui. Non, mais justement, si je dis ça, c'est...
Il ne faut pas prendre cette fonction-là si on veut se faire des amis.
Oui, non, mais si je dis ça, c'est justement pour mettre la balle au centre, si on peut dire. C'est-à-dire que le chef d'établissement doit être un chef d'établissement. L'inspecteur doit être un inspecteur, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai toujours été contre le fait que les inspecteurs soient des accompagnateurs d'innovation. Personnellement, je ne pense pas qu'un inspecteur soit un bon accompagnateur. Par contre, c'est un bon évaluateur. Le métier de base de l'inspecteur, c'est d'évaluer. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que l'inspecteur pourrait ne pas évaluer ? Pour moi, l'inspecteur n'a pas à accompagner, mais il a à évaluer. Par contre, effectivement, on n'évalue pas une expérimentation et une innovation comme on évalue un enseignement dans une discipline. Voilà. Donc effectivement, il y a une évolution de posture à faire, mais pour moi, le cœur du métier de l'inspection, c'est l'évaluation, sinon je ne sais pas ce qu'on est censé faire. Enfin, bon, on n'est pas chacun ses rôles. Voilà, donc ça me paraît important. Et justement, dans tout ce qui concerne l'expérimentation, il y a aussi quelque chose qui a plané tout autour de ce qu'on a dit, c'est l'attribution de responsabilité. Je pense que ce qui est important, c'est de développer des rôles dans le système et d'attribuer des responsabilités. Des rôles qui peuvent être extérieurs aussi, au statut. Je pense par exemple au rôle que j'ai plus ou moins, qu'à Lyon on essaie de développer, c'est le conseil en développement. Bon. C'est un rôle particulier et ça ne peut pas être un inspecteur justement. Alors le problème d'aujourd'hui, c'est que qui occupe ces places-là, sachant que normalement, les postes qu'on a sont censés être réservés à l'enseignement. Donc ça, il y a quand même un problème, cette fois-ci, de moyens. Hein. Bon. Est-ce qu'on peut créer ? Il y a eu des corps qui avaient été créés, des conseillers avec les conseillers en formation continue, le CAPES Engineering. Bon, on a toujours reculé dans le système à créer des corps spécialisés dans l'accompagnement à l'ingénierie. Bon. Il y a des raisons, sans doute des très bonnes raisons à cela. Néanmoins, c'est un vrai problème. Comment peut-on accompagner le développement des expérimentations si on n'a pas des personnes spécialisées là-dedans ? Et je suis désolé, les inspecteurs ne peuvent pas le faire. D'une part, parce qu'ils sont complètement débordés de travail, donc ils ne peuvent faire que de l'émiettement. Et puis d'autre part, parce qu'on ne peut pas être jugé parti, c'est pas possible. Donc voilà, je terminerai sur cette question. Qui peut aider au développement des expérimentations ?
Peut-être, bon, il nous reste un petit moment, peut-être que vous voulez intervenir au nom de la DGESCO sur les questions qui ont émergé.
Ben peut-être répondre à madame sur le socle, l'expérimentation, peut-être que monsieur l'inspecteur général aussi voudra, je ne sais pas, s'exprimer sur le sujet, mais en tout cas, moi, je peux vous dire, là, ce n'est pas vraiment le sentiment de la DGESCO, c'est plus mon sentiment à moi, Richard Buty, enseignant. J'ai l'impression, moi, que les descripteurs que l'on trouve dans les livrets de compétences, justement, qui illustrent le socle, la compétence, enfin, d'autonomie et d'initiative qui se trouve dans le socle, laissent, comme dans le cadre du cadre européen de référence en langue, toute la liberté à l'expérimentation. Et j'ai l'impression que plus on a donné des descripteurs positifs, je suis capable de... qui permettent aux jeunes de constamment prendre repère, prendre un appui, plus aussi on a favorisé les initiatives expérimentales autour de ce descripteur, d'un ou de plusieurs. Et c'est peut-être ça qu'il y a, finalement, on a certains, ceux qui ont décrié, on va dire, des descripteurs qui étaient établis à l'avance, en fait, n'ont sans doute pas mesuré que ça apportait davantage de liberté, puisqu'en fait, on apportait un générique, pardon de le dire comme ça, mais qu'autour de ce générique, on avait un espace de gravité, si je peux dire ça comme ça. Et moi, c'est le sentiment que j'avais envie de réagir sur ça. J'ai vu des productions écrites, sur justement qui ont à voir avec le socle en collège. Il y en a, oui, peu dans le premier degré, mais collège, on trouve de belles illustrations. Voilà.
Si vous voulez deux mots. Il me semble que l'espace de créativité exercé sur le socle est immense, ne serait-ce qu'avec tout ce qui est transversalité, je reviens dessus, mais il me semble que c'est quand même un des thèmes majeurs. avoir, par exemple, dans le domaine des sciences, un seul domaine exprimé, une évaluation commune, sciences physiques, chimiques et SVT, où les objectifs sont définis pareils et mathématiques associées. Bon, donc, il y a cette transversalité, le B2I et l'informatique, j'y reviens pas, et puis il y a les points 6 et 7 du socle. C'est-à-dire on est quand même dans... comment réussir à passer à ces aspects plus éducatifs, disons, citoyenneté et puis autonomie, comment réussir à les évaluer et à bien en amont à développer, à mettre en place ces compétences-là et de façon transversale, parce qu'elles n'appartiennent pas à une discipline, ça doit se faire de façon convergente, donc ça va impliquer toute une coopération, tout un partage. Et là-dessus, je ne crois pas qu'on soit vraiment complètement au point. Et à certains moments, d'ailleurs, je me suis demandé, mais c'est une question personnelle, comment on allait pouvoir se débrouiller sans quelque chose qui ressemble aux IDD là-dedans. C'est-à-dire sans avoir quelque part un dispositif qui permette de fluidifier au moins le premier contact, c'est-à-dire d'avoir un espace de partage pour tous ces objectifs-là.
Ça existe, il y a les IDD, il y a les IDD pour les 3 heures,
oui, c'est ça.
Les PPRE, mais tout ça, ça rentre dans le socle commun. Et c'est une expérimentation en soi, mais on n'est pas accompagné.
Comment, oui, c'est comment l'articuler. On est bien dans un domaine d'expérimentation encore, qui n'est pas simple. On n'a pas le savoir-faire en routine. Et c'est un ancien inspecteur général, ancien DESCO, Bernard Tout-le-Monde, qui disait que pour un changement de paradigme, et là je crois qu'on est vraiment dans un gros changement de paradigme dans l'éducation nationale, il fallait entre 15 et 20 ans pour qu'on passe dans les routines. Pas la routine au sens routinier du terme, mais bien au sens d'un processus rodé et avec un accompagnement extrêmement volontaire.
Alors, il faut qu'on s'arrête à 16h, donc on ne va pas commencer un nouveau débat sur le socle commun. Mais je crois qu'il y a quand même pas mal de demandes de prise de parole, de réaction, etc. Donc, je fais passer le micro. Mais donc, on peut quand même qu'on s'arrête assez.
Oui, je suis heureux qu'on parle du socle commun. Effectivement, moi, depuis 2 jours, je tournais autour de cette question. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, comme vous dites, c'est un changement de paradigme profond. Et j'en viens à me poser la question de savoir si l'article 34, dans la mesure où il ouvre des possibilités d'innovation et d'évolution, n'est pas en fin de compte ce que vous avez décrit, effectivement, un levier de changement, un outil de formation, presque. Propédeutique à ce changement de paradigme. Et en fait, la situation me semble étonnante d'une certaine façon, c'est-à-dire que le changement de paradigme est vraiment très difficile, je parle de mon point de vue, me semble-t-il, à mettre en œuvre 10, 15 ans avant que ça passe dans les habitudes pédagogiques des professeurs. Et il me semble, de ce point de vue, que l'institution est plus novatrice et plus révolutionnaire que le terrain. Et la difficulté, en tant que personnel de direction de collège, c'est bien de faire passer cette chose novatrice dans le terrain. Et quel processus avoir pour faire passer cela dans les habitudes ou dans les pratiques.
C'est votre intervention.
Oui, juste une petite remarque par rapport au socle commun dans le premier degré. Moi, je suis conseiller pédagogique dans le premier degré et je peux vous garantir que toutes les écoles actuellement travaillent sur le socle commun.
Ah oui.
Depuis maintenant.
Ah non, mais
personne. Et que actuellement,
tu réponds à l'échelle académique là-dessus. Tu réponds à l'échelle académique là-dessus.
Oui, mais je prends en compte dans toutes les compétences entre ce qu'on fait, ce qu'on fait par les élèves.
Je peux le dire. Tu évalues en fonction du contexte.
Alors quoi?
Merci. Romuald, dans l'intervention que vous avez faite hier, signalait l'importance du cadre. Que quand on doit travailler sur l'implémentation, il y a un cadre pour vous donner. Donc il y a plusieurs cadres possibles. Il se trouve que le socle commun est un cadre. Finalement, un cadre actuel et qui est en train de grader quasiment notre système éducatif. Et donc, ce qui est particulier dans ce cadre du socle commun, c'est qu'aucun des domaines sur lesquels on doit évaluer les élèves n'est réductible à une discipline. Et donc ça veut dire qu'il y a un très gros décalage entre l'organisation du travail, la routine, la culture professionnelle et la formation des enseignants, et le cadre dans lequel ils sont actuellement, ils sont, vous êtes, nous sommes hors cadre. Et donc, je pense que c'est un des éléments de réponse à votre question en disant mais comment je peux faire alors, c'est discussion. Est-ce qu'on prend conscience de ce décalage actuellement nouveau, parce que je n'ai pas besoin d'être dans le cadre, disons, mais que je vais dire les programmes, etc. Je suis présent, mais maintenant, précisément, vous avez un cadre qui a bougé, l'Europe qui a bougé, l'évaluation qui a bougé, mais nos organisations d'enseignement n'ont pas bougé. Et donc là, vous avez une carte blanche fantastique, et on ne prend pas la mesure de ce que ça peut être. Donc un collège qui fonctionnerait au socle commun, on n'a pas idée encore de ce que ça peut être.
C'est ça.
Et donc, autant dans le premier degré, ils ont la main, et précisément, et donc quand vous dites, quand Richard dit, parce que précisément, on n'a pas à remonter les premiers degrés, pas toujours, c'est oui. Qu'actuellement, on est niveau aveugle là-dessus, au niveau de la digestion en ce moment. Mais dans le second degré,
il faut attendre trois bonnes journées, mais c'est ça, pour avoir la montée.
Il y a un pari fantastique, mais fantastique, c'est une belle aventure. C'est-à-dire que là, on va aller très très loin, alors soit petitement dans une petite zone que vous avez signalée, qui nous pouvait essayer, c'est très bien, au contraire, profitons-en, c'est un petit labo, on peut y aller, même souvent les enseignants s'autorisent à faire des choses bien, et puis à côté, on hésite. Mais à un moment donné, une des métaphores dit que quand on est dans un mouvement, il ne faut pas s'accrocher à un point fixe. Il faut travailler au contraire ces points d'appui, comme. Quand vous êtes en barap, vous avez besoin de trois points d'appui pour progresser, vous grimpez des montagnes, d'accord ? Mais si vous approchez un point fixe, vous ne bougerez pas. Et donc, actuellement, on est dans cette situation, dans l'établissement, on a un point fixe qui s'approche, et les points fixes sont nombreux, voilà, ce qui empêche finalement le mouvement. Donc, il y a un travail sur le point d'appui, il y a un travail sur l'accompagnement nécessaire, et je terminerai ma remarque sur une remarque un peu méta, sur l'histoire de l'année critique. C'est très amusant pendant ces deux jours de voir que l'année critique est une surface de projection, de fantasme finalement, où finalement tout le monde s'y reconnaît, il va falloir travailler là-dessus. Donc moi je discerne un besoin de formation complémentaire pour notre groupe sur cette histoire-là, parce que je discerne au moins 4 ou 5 professions qui se reconnaissent dans l'année critique, et je pense qu'il y a des confusions, du fantasme, en tout cas des décisions à apporter là-dessus. Parce que entre ce que moi j'ai lu et compris de ce que mieux à nous le signaler, et donc il faut parler, il faut être là pour lire là-dessus. Il y a un point d'ajustement actuellement entre ce que sont nos professions, ce que sont nos statuts, ce que sont nos compétences, et ce qu'est effectivement la métrique. Encore une fois, c'est pas vraiment inventé, ça se pratique depuis des années, des dizaines d'années ailleurs. Donc, soyons intelligents, on parlera un peu.
Merci beaucoup. Je crois qu'il faut refaire un petit rapide bulletin en vous demandant de ne pas recommencer un débat sur le socle commun. Et puis, effectivement, il faut qu'on termine vers 16h. Jean.
Oui, si je voulais, c'était juste, c'est pas un débat sur le socle commun, c'est un témoignage sur la relation entre socle commun et expérimentation. Oui. Il fut un temps où on m'avait dit on ne peut pas expérimenter sur le socle commun. L'article 34, ça ne s'applique pas au socle commun. Comme l'article 34, ça ne s'applique pas au cadre européen des langues. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire. Bon. Donc, je crois que dans notre maison, il y a vraiment quelque chose sur quoi il faut qu'on réfléchisse. Quel est le statut de l'expérimentation ? Parce que l'expérimentation article 34, ça a été pris parfois d'une manière que je qualifierais d'exotique. C'est-à-dire, bon, comme ça, les gens peuvent faire des choses dans les établissements, c'est bien, mais alors attention, socle commun, tout ça, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, moi, en tant que délégué académique à l'expérimentation, on ne parle pas beaucoup du socle commun, on ne parle pas beaucoup du cadre européen des langues. Voilà, donc je veux dire, comment, et tout ce qui a été dit là me semble tout à fait intéressant, et là, je pose la question aussi, du moins je m'appuie sur l'expérience de M. Bonnour en tant que bon connaisseur de la centrale, si on peut dire, c'est comment peut-on relier justement des évolutions nécessaires à cette capacité d'expérimentation, ou plutôt le contraire, c'est ce qu'on a dit, comment peut-on relier l'expérimentation à des évolutions nécessaires ? Parce qu'il ne s'agit pas de faire du mouvement pour du mouvement, c'est pas ça, ça c'est pas intéressant, ça a été peut-être le travers de ce qu'on a appelé innovation dans le système. Il s'agit de faire en sorte que l'expérimentation, que le mouvement soit au service du mouvement général, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la question du socle est vraiment intéressante à ce niveau-là. Et puis pour finir, je dirais que quels sont le cadre, comme dit François Muller, sur lequel on peut travailler. Encore une fois, je regarde les RRS d'une part, enfin les REP et RRS, donc l'éducation prioritaire d'une part, et puis l'école, le primaire d'autre part. Dans le primaire, il y a des conseillers pédagogiques. Il y a des gens qui peuvent travailler avec les instituteurs, les professeurs des écoles, et avec les inspecteurs. Donc il y a des gens qui peuvent faire des intermédiations. Dans l'éducation prioritaire, il y a des stages de zone, il y a des réseaux, etc. Bon, dans notre système habituel, normal, il y a des établissements scolaires isolés les uns des autres, plus ou moins, avec une toute petite tête d'épingle à leur sommet, le chef d'établissement, son ou ses adjoints, les personnels scolaires, et puis une grande masse d'élèves et de professeurs. Bon. Dans l'enseignement privé, par exemple, il y a ce qu'on appelle des préfets, il y a des coordonnateurs de discipline, etc. Donc il y a des gens qui peuvent faire quelque chose. Alors, par rapport à tout ça, d'une part, comment peut-on faire passer du socle, enfin, d'une injonction à une pratique en passant par l'expérimentation, et d'autre part, sur quel rôle peut-on se reposer pour faire ça? Je crois que c'est ces deux choses qu'on a absolument à résoudre.
Y a-t-il d'autres réactions?
Il se trouve que je trouve que le socle commun, quand même, est un bon révélateur d'un certain nombre de choses. Je vais parler en tant qu'ancien doyen des IPR, mais surtout en tant que délégué académique que je suis, et dans lequel se trouvent les trois collèges inspecteurs, donc le collège des IUN du premier degré, et avec lequel nous avons fait des travaux communs, d'ailleurs, entre premier et second degré. Et bien sur ces notions-là, parce que ça rejoint assez le pilotage ou le suivi des expérimentations ou l'accompagnement, ben tout le monde se cherche en réalité. Tout le monde travaille en fait. Oui, j'ai entendu, on travaille, mais c'est que tout le monde se cherche. Et quand j'enlève tout le brouillage, à savoir ce que j'appelle le brouillage, c'est les modes de fonctionnement différents du premier et second degré, ben c'est les mêmes problèmes, on est bien confrontés en premier et second degré sur exactement les mêmes problèmes. Et donc, c'est pas si simple que ça. Et au fond, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est aussi ça autour des expérimentations, des innovations. C'est au fond face à des systèmes dans lesquels, effectivement, les routines ne sont pas installées. Bah, l'accompagnement se construit en même temps que le phénomène se développe. Et que ça, il faut l'accepter. Quoi. Enfin, sinon, c'est un besoin en établissement.
Merci. Pas d'autres?
Oui, peut-être. Juste une toute petite chose sur le socle. Enfin, c'était une discussion qu'on était en train d'avoir un petit peu en aparté sur peut-on expérimenter sur le socle. Le socle commun est obligatoire, l'évaluation est définie, etc. Bon. Par contre, on a encore des horaires définis en termes de discipline qui peuvent faire obstacle, qui peuvent être considérés comme faisant obstacle à certains moments à l'exercice de la transversalité. Et dans cette mesure-là, si on travaille sur les processus, donc. On peut, là, demander des mesures dérogatoires et expérimenter, non pas sur le socle, mais sur la façon, sur les procédures qui permettent d'atteindre les objectifs du socle. Il me semble que là-dessus, on peut être d'accord sur ce point-là. Donc, le socle est décidé, c'est le contrat commun entre la nation, etc. Mais la mise en œuvre peut quand même donner lieu à une expérimentation, ou à des expérimentations dans le cadre de l'article 34, puisque, comme vous le disiez, finalement, on a un cadre qui reste le cadre horaire et le cadre disciplinaire auquel il faut à certains moments échapper pour atteindre cet objectif de transversalité.
Même une forme de nature, le même réglementaire, le socle légal, le cadre horaire et les disciplines ne sont pas inscrits dans la loi.
Décret.
Oui, c'est ça. Donc, oui, même au niveau réglementaire.
Oui, même au niveau réglementaire.
La réglementation, la loi s'impose.
Bien, écoutez, merci à tous, merci évidemment aux participants à la table ronde, merci à la salle. Bon, je ne crois pas que nous allons être très longs dans la conclusion. Enfin, je me tourne aussi vers Christine.
Pour vous tarder pendant plus d'un mois et demi, elle a signé, alors que pendant ce temps-là, tout le monde se pensait qu'elle ne sera pas signée. Non, elle ne va pas signer.
Oui, pour conclure ces travaux, je vais revenir à l'invitation que nous avait fait le recteur d'avoir deux jours de réflexion fructueuse. Je crois que pouvoir dire sans trop anticiper sur vos évaluations respectives, que vous n'oublierez pas de nous rendre, ou au moins de nous renvoyer, que ces deux jours ont rempli leur contrat. Je vous remercie vraiment pour votre participation. En tout cas, pour ma part, j'ai vécu un grand moment et je crois que c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien d'avoir une vraie parole et d'avoir. Voilà. Je pense que les travaux que nous avons faits et que nous avons, je pense, cette fois-ci enregistrés, devraient vraiment donner lieu à. Alors, peut-être pas des actes, mais en tout cas, peut-être même des actes, peut-être, mais une publicité, parce que je crois que là, il y a des choses qui se sont dites et qui sont des pierres pour une construction ultérieure. Voilà, merci à tous et bon retour dans vos académies à ce moment.